Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Il était né à Alexandrie dans une famille grecque qui parlait italien. Il s'appelait Giuseppe, mais devint Georges, en hommage à Brassens, qu'il considérait comme son maître. Débarqué à Paris à l'âge de 17 ans, au début des années 50, Georges Moustaki a longtemps écrit pour les autres, avant de se chanter lui-même. Il y eut Milord pour Piaf, bien sûr, mais aussi des chansons pour Colette Renard, Dalida, Yves Montand, Cora Vauquer, Juliette Gréco, Tino Rossi, et puis La Longue Dame Brune, Barbara, Sarah, Votre fille à 20 ans, Ma Liberté pour Reggiani, qui en refusant le Métèque, propulsa en tête des hit-parades le chanteur Moustaki. Dès lors, Georges Moustaki enchaîna les succès sans jamais courir après. À sa disparition en 2013, Juliette Gréco disait de lui « C'était un homme absolument exquis, un homme bien élevé, c'était un homme raffiné, c'était un homme élégant qui avait une douceur infinie, et puis le talent. » En 2003, Georges Moustaki était l'invité d'Hélène Azéra dans Chanson Boom, qui accueillait aussi ce soir-là le groupe exclusivement féminin, le Quartet Buccal.
As-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant?
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Boum!
Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture. Un divertissement proposé par Hélène Azéra.
Boom.
Merci d'être à l'écoute. Ce soir, Chanson Boom joue les bonnes fées entremetteuses. Quatre jolies jeunes belles, pas très endormies, et un prince charmant, chanteur, poète, nomade, qui s'est fixé dans la langue française. Ce soir, les quatre mutines du quartet Buccal rencontrent chez nous M. Georges Moustaki, à lui d'ouvrir le bal.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, la bouche usée par les baisers. Trop souvent mais trop mal donné. Le teint blafard malgré le phare. Pâle que tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins trop lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent mais trop mal. Aimer, le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes. Lorsque la nuit nous réunit, son corps, ses mains s'offrent aux miens. Et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure.
Merci. Georges. Alors, je vais vous demander de passer du micro du piano et de la guitare au micro de la parole, car chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que ça fait de passer d'un instrument à l'autre ? La chanson est complètement différente si on l'entend à la guitare ou on l'entend au piano.
Le piano, c'est un amour d'adolescence qui dure, que j'ai trahi quelquefois plus par timidité que par infidélité. Et un jour, je me suis cassé le doigt et je ne pouvais pas jouer de la guitare. Il faut les cinq. C'est l'index. Il est indispensable. C'est celui que j'ai cassé. Et j'avais une tournée à faire dans les trois jours qui ont suivi cette fracture. Et je me suis souvenu que j'avais été pianiste de bar, que j'aimais le piano. Je me suis vite recyclé. Et cet amour d'adolescence est redevenu un amour d'homme mûr.
Je vous ai vu aussi jouer de l'accordéon. Je crois que c'était derrière Brigitte Fontaine.
Oh, entre autres, oui, Brigitte et moi sommes liés par beaucoup de choses dans l'accordéon. Mais l'accordéon, c'est une vendange tardive, comme on dit. Mais je crois que chaque instrument recèle d'abord une littérature différente et une inspiration et une respiration différente. Et moi, j'ai une sorte de boulimie d'apprendre des instruments sans jamais être parfait dans aucun, malheureusement. Mais le jour où j'ai acheté un accordéon et que j'ai pu jouer une petite valse sur trois accords, j'étais comblé. Puis, comme j'avais rencontré un grand maître qui m'a accompagné pendant 14 ans, je lui ai demandé des cours. Et là, j'ai eu quelques ambitions accordéonesques, mais je ne suis jamais parvenu à lui arriver à la cheville. C'est pas de la fausse modestie, tout ça.
En même temps, la chanson et le minimalisme, et en tout cas une certaine épure, ça va plutôt bien. Bon, on a entendu des chanteurs avec des orchestres symphoniques et c'était pas mal du tout, mais on sait qu'avec juste une guitare, ça peut aussi être très beau.
Ah oui, la guitare m'a sauvé la vie quand j'étais un travailleur sans papier qui cherchait à survivre. La guitare, d'abord, c'est un instrument facile à acheter parce que pas trop cher, qui ne couvre pas ma voix qui porte difficilement à plus de 2 mètres. Et puis, c'est un instrument qu'on peut emporter partout. Et comme vous dites, le fait qu'elle soit minimaliste laisse l'imagination faire le reste. Il y a un chanteur que j'admire beaucoup, qui est Caetano Veloso, qui fait des choses avec des percussions, avec des grands orchestres, des petits orchestres, des classiques. Et puis, de temps en temps, il prend sa guitare et il fait un récital à la guitare. Et on entend tout ce qu'il n'y a pas. Ça m'a un peu rendu jaloux. Et je me suis empressé de l'imiter, de faire des petites tournées comme ça, occasionnellement, juste à la guitare, pour prétendre que derrière la guitare, on entend les violons, les percussions, l'accordéon, le piano.
Non seulement vous êtes polyinstrumentiste, mais vous êtes multilingue aussi.
Oui, c'est la même prétention.
Combien de langues vous comprenez ?
Ah, j'aime mieux cette formulation. Bon, je suis né dans un pays, dans une ville où on parlait à la naissance au moins 3-4 langues. C'est Alexandrie d'Égypte, puisqu'il y a Alexandrie d'Italie.
Et de
Grèce et de Turquie et d'Amérique. Et donc, quand on est à Alexandrie, on parle fatalement l'arabe si on fait des études normales et si on marche dans la rue.
Et qu'on a envie de parler aux gens sympathiques.
Voilà.
Oui.
J'ai appris le français à l'école. Je parlais gréco-italien à la maison parce que nous sommes de la partie des Ilioniennes où on mélangeait un dialecte italique, italien avec le grec. Donc voilà, et puis l'administration anglaise vous imposait de parler un peu d'anglais. Donc c'est parti de 5 langues. Après, j'ai appris.
Donc vous avez une facilité à apprendre les langues, j'imagine, la suite de cet exercice de passer d'une langue à l'autre.
Sûrement, ça m'a facilité les choses, mais c'est surtout l'envie, le goût des langues. La première fois que je suis allé au Brésil, j'étais tellement sous le charme de cette langue. Et des jeunes filles qui l'utilisaient. Non, mais les jeunes filles et les jeunes gens, vraiment.
C'est particulièrement flatteur pour la langue française que vous ayez choisi de composer la plupart de vos chansons en français, parce que vous aviez le choix.
Toutes mes chansons ont été écrites.
Mais vous auriez pu écrire dans d'autres langues. Vous auriez pu choisir d'autres langues pour vous exprimer. La plupart des gens qui écrivent en français, c'est parce qu'ils ne connaissent pas d'autres langues. Vous, c'est vraiment un choix, c'est une adoption.
Oui, c'est un choix, je ne pense pas. Disons, il y a une part de destin, quoi. Je vivais dans un pays arabe de parents grecs et je suis allé à l'école française. Ça, c'est la guerre qui a dû passer par là, qui faisait que les institutions scolaires n'étaient pas toutes aussi performantes que les Anglais et les Français. Voilà, mon père a choisi les Français et je l'en remercie jusqu'à présent pour toujours. Parce que d'abord, ça m'a ouvert à une langue que j'ai aimée et mes deux sœurs aussi, c'est pas... Donc le français doit avoir un intérêt, un charme qui nous a éblouis. Et on a importé le français à la maison. Alors, en plus des trois langues qu'on parle à la maison, il y a eu le français qui a dominé très vite. Et une fois, Jean-Claude Barrault m'a simplifié tout, m'a dit « Tu n'es d'aucun pays, tu es un citoyen de la langue française. » Et je crois qu'on pourrait résumer.
C'est une très belle phrase.
Oui. Donc, j'ai choisi le français ou le français m'a choisi. Mais enfin, il y a eu une
en
osmose.
En même temps, bon, je vais pas faire des ventries, mais c'est un peu aussi une idée du français comme langue universelle. Il y a une idée d'universalité dans le français que vous utilisez. Et d'ailleurs, c'est un français que vous allez répandre dans le monde entier.
Oui, moi j'ai connu le français ailleurs qu'en France, donc déjà ça voulait dire que le français n'était pas réservé à certains pays francophones qui pouvaient voyager. Et quand j'ai fait chanteur, bien bien plus tard, puisque je suis un chanteur qui a commencé sa carrière à 35 ans, je ne pensais pas aller si loin dans les deux sens. C'est-à-dire que je ne pensais pas sortir de l'Hexagone pour aller chanter dans tous les pays d'Amérique latine ou d'Asie. Ou
en Turquie, en Turquie, partout au Japon.
Voilà. Donc, je suis allé très loin grâce à ce français qui s'est avéré effectivement universel. Mais je crois que j'avais une inconscience. Que, par exemple, quand j'ai fait des tournées comme ça en Allemagne, ou sur, je sais pas, des longues tournées dans des villes petites, ce n'était pas des villes où il y avait un foyer culturel français. Je suis rentré et j'ai dit à mes amis, c'était Nougaro, Le Forestier, même Francis Lalanne, que je connais moi, je lui ai dit, il faut aller dans ces pays-là, parce qu'on porte un art français, francophone, qui est vraiment reçu, accessible partout. Et très souvent, mes confrères sont assez frileux pour affronter des gens qui ne connaissent pas aussi bien le français qu'ils le souhaiteraient.
Et vous voyez encore Juliette Gréco, bon, quand on voit des images d'elle en train de chanter au Japon, elle se rattrape en faisant énormément de gestes. C'est tout juste si elle ne fait pas des sous-titres avec les mains, mais on ne peut pas dire ça.
Il y a des sous-titres aussi.
On ne peut pas dire ça de vous.
Non, mais je vais me trahir, mais je vais vous contredire. Mais il y a eu un essai de faire un concert avec des sous-titres. Alors, c'était gênant pour deux raisons. D'abord, parce que les gens ne regardaient pas l'artiste, ils regardaient les sous-titres. Et puis, parce que je n'ai aucune discipline pour faire un répertoire. Alors, comme les sous-titres étaient programmés par la technologie, les chansons sous-titrées n'étaient pas toujours celles que je chantais. Donc, on a abandonné cette idée.
Alors, je vous ai présenté en arrivant, vous leur avez fait la bise, nos quatre jolies jeunes filles. Et on a choisi une chanson un petit peu pour elles. Une chanson que vous allez nous chanter maintenant, et cette fois-ci à la guitare, si je ne m'abuse, qui s'appelle « C'est là ». Et si je ne m'abuse, elle est sous-titrée comme un hommage
à Courbet,
l'origine du monde.
C'est là que le monde commence, c'est le début de l'infini. Jardin secret, couleur de nuit, royaume d'ombre et de silence. Terre promise, île déserte, refuge, crypte et oasis. Jardin de nos plus doux délices, source toujours redécouverte. C'est là le centre. centre de la terre, où se rencontrent nos envies. C'est là que se donne la vie, royaume d'ombre et de mystère. C'est là que commence le monde, là où ta main guide ma main, pour mieux lui montrer le chemin au cœur d'une forêt profonde. J'y découvre des paysages, d'étranges fleurs, d'étranges fruits, dans cette étrange galaxie. Mes voyages, c'est là le centre de la terre, le saint des saints, le lieu précis où de naguère à aujourd'hui je me noie et me désaltère. C'est là que le monde commence, c'est le début de l'infini. Jardin secret, couleur de nuit, où tu recueilles ma semence.
Claire, Corinne, Véronique, Marisa, le quartet buccal, depuis l'aube.
Depuis l'aube de l'adolescence, qu'on acquirent les premiers émois, qui firent chavirer mon enfance. Déjà tu étais là, pourquoi devrais-je faire silence? Pourquoi garder le secret, nier jusqu'à ton existence, toi que l'on ne nomme jamais? Alors que des bas solitaires, en aventures à quatre mains, tu me fis franchir des frontières, me fit aller toujours plus loin. J'explorais chaque latitude de mon intime géographie. Puis un jour, avec gratitude, je te revenais à l'anguille. Mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris, posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse, posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse. S'ils furent quelques-uns à connaître mon corps d'amour épanoui, bien peu d'entre eux, je dois l'admettre, t'emmenèrent au paradis. C'est qu'il faut une tendresse experte pour pouvoir t'apprivoiser. Celui-là qui devint ton maître vit toujours à mes côtés. Mais s'il arrive que la vieillesse me couche un jour seule dans son lit, si tout le monde me délaisse, toi tu me tiendras compagnie. Et quand la mort n'aura de cesse que je lui emboîte le pas, alors dans une ultime caresse, je te dirai adieu du doigt. Mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris, posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse, posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse.
Posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse.
Merci, le quartet buccal. Alors, nous avons désigné deux volontaires parmi les quatre, parce que quatre ensemble, ça ferait un petit peu de désordre. Vous pouvez vous présenter donc,
Alors, moi, je suis Corinne.
Et
moi, Claire.
Alors, vous pouvez nous raconter comment vous... Alors, d'abord, qui est l'auteur de ce texte charmant, délicat et...
C'est moi, Claire. Charmant et délicat.
Vous êtes la génération où on a commencé l'éducation sexuelle dans les écoles, c'est ça?
Je suis pas sûre que ça viendrait de là, en fait.
Non, ça viendrait pas tellement.
En fin de compte, à l'école,
c'est très éducatif.
On nous parlait de reproduction, mais pas beaucoup de désir et de sexualité,
vraiment. Et de géographie, et de géographie amoureuse.
Voilà.
Vous aimez, Georges?
Beaucoup.
Un joli mot grec.
C'est un beau dialogue, en tout cas, ces deux chansons.
Oui, c'est une belle réponse. Et j'attends la suite.
C'est amusant parce que le cliché sur l'âme féminine est que la femme est plus pratique que l'homme. Et là, on a un petit peu une illustration de ça. C'est plus terre à terre, d'une certaine manière.
Oui, mais il y a les deux aspects. Il y a quelque chose de très poétique, une huître soyeuse. Je pense aussi, quand j'ai voulu écrire une chanson pour célébrer le sexe d'une femme, j'ai aussi essayé de le rendre le plus imagé et le plus poétique en même temps. Et je salue leur performance.
Vous êtes contente?
Ravie.
Très fière.
Alors, et puis, musicalement, c'est beau. Hein,
oui. Moi, c'est la première chose que j'ai remarquée. J'ai reçu le disque. J'ai dit...
Ah, il y a un disque.
Oui,
je vais partir avec.
Tout nouveau.
Voilà, tout nouveau, tout beau. Et la première chose que j'ai dit musicalement, c'est quand même très net, très. On a souvent l'impression que presque les gens font de l'humour, ils ont droit à faire des fausses notes. Vous, c'est un petit peu le contraire. Votre idée, c'est que.
Mais c'est pas de l'humour. Il y a de l'humour, mais c'est pas de l'humour.
Oui.
Cette chanson est un peu particulière. En général, la plupart des choses qu'on fait, c'est plutôt franchement de l'humour, voire. Ah. Voir de la franche rigolade, quoi. Et c'est vrai que... Et celle-ci, elle est un peu sur un fil, en fait, parce qu'elle est... on peut vraiment la prendre pour ce qu'elle dit, tout simplement, et être touchée, et en même temps en rire. Et je pense qu'en fait, au sein du spectacle, il se passe les deux phénomènes en même temps.
Ce qui fait rire, je pense, c'est l'inhabitualité de prononcer ce mot dans une salle de spectacle.
Le thème, par contre, alors, je vous dirais qu'il y a une chanson de 1910 qui s'appelle « La légende des trois fraises », qui est une chanson qui était chantée par Mayol, où il y a une histoire de trois petites fraises qui vont se poser sur le corps d'une femme, deux en haut et une en bas. Oui. Donc, vous voyez, mais le mot n'était pas prononcé, par contre. On restait dans les...
Il y a une belle chanson j'avais entendue chantée par Colette Renard, qui était une énumération en fait, de tous les termes utilisés.
La nuit d'une demoiselle.
Voilà. Alors, ce que j'ai vu sur votre petite biographie, c'est que vous avez une trajectoire qui est assez commune chez les groupes ou des chanteurs. C'est-à-dire que vous avez commencé par faire des reprises. Vous vous êtes fait les dents un petit peu en chantant Boris Vian, le Bobby Lapointe, etc. C'est un petit peu souvent, d'ailleurs, en général, que les gens reprennent. Et puis ensuite, vous êtes passé à vos propres compositions.
Ouais. En fait... presque tout de suite, on est passé à nos propres compositions. Et je pense que...
Personne n'a jamais entendu reprises, nos reprises, en fait. Elles sont restées.
Deux répétitions avec des reprises comme ça, ce que vous avez cité. Et puis super vite, on est arrivé avec chacune une chanson, en fait, sur les petites histoires qui nous arrivaient. Et en fait, on a vite monté un quart d'heure qu'on a montré comme ça, franchement, à des copains, mais quand même... Et puis en 94, on avait une heure qu'on a présentée et on est tout de suite, en fait, là où on s'est lancé vraiment, c'est dans les festivals de rue. Mm-hmm. La même année, on était à Chalon et Aurillac et avec tout de suite ce premier spectacle qui s'appelle L'État limite. Et tout de suite, on a tourné beaucoup.
Mais c'est bien.
C'était une chance pour nous de faire de la chanson comme ça dans des festivals de rue qui a un autre rapport avec le plus public que la salle. Après, la musicalité, c'est vrai qu'en rue, à l'époque, on n'était pas sonorisé, je me rappelle bien. Donc, l'harmonisation, etc., ça passait un petit peu.
Je vous propose d'en chanter une deuxième. Celle-là a été écrite par qui ?
Par Coco.
Par Coco. Donc, Claire, Corinne, Véronique et Marisa, le quartet buccal, ça s'appelle La Chasse.
C'est bon ?
C'est parti.
Ah, c'est parti.
Il faut y aller, faut y aller.
C'est sur la route des fauvettes que Jean-Paul vit sans amourette. Il aime les arbres, les fleurs, les oiseaux, les champs de blé, les vaches et les petits ruisseaux. Des distractions de la ville, il n'a que faire. Car dans la vie, de loin, ce qu'il préfère, ce qui soulage toutes ses angoisses, c'est une bonne partie de chasse. Est-ce qu'on rigole bien avec les copains quand vient la saison de mater les pigeons ? On oublie tout, on devient fou. C'est au moment d'appuyer sur la gâchette, ça vous chatouille au niveau de la braguette.
C'est au petit bal des alouettes que Jean-Paul a rencontré Jeannette. Elle sentit son petit cœur palpiter sur l'heure quand Jean-Paul lui dit qu'il était chasseur.
Il passa la soirée à lui raconter comment que c'est qu'on fait pour coincer les sangliers.
Faut dire que la Jeannette aimait ça.
Ça lui rappelait son papa.
Est-ce qu'on rigole bien sur le traversin quand vient le moment du zizi pompon ? On oublie tout, on devient fou. C'est un peu comme d'appuyer sur la gâchette. Dis-moi, c'est ce que souhaiterait Jeannette.
C'est dans le petit bois des violettes que Jean-Paul a confondu Jeannette avec un féroce et très méchant lapin qui essayait d'échapper à son destin. Quand la Jeannette prit la balle en plein cœur, Jean-Paul se trouva de mauvaise humeur, regretta d'avoir bu l'apéro à 5h du mat, c'est beaucoup trop tôt.
Est-ce que c'était bien le dimanche matin quand elle préparait pour moi
le civet?
Je l'aimais tant et maintenant
je me sens comme Roméo sans Juliette, comme un fusil sans sa gâchette.
C'est au petit bar de chez Paulette que le voyant pleurait sa Jeannette. Son copain Dédé voulut le consoler à grands coups de vin, de Ricard et d'amitié.
On va pas se laisser faire par des lapins.
Tiens,
on n'est pas des tarlouses
ni des crétins. Faut pas te faire marcher sur les pieds, on va t'aider à te venger. Est-ce qu'on rigole bien avec les copains, on est les champions de l'épuration. On oublie tout, on devient fou. Grâce à Jean-Paul et tous ses compagnons, on trouve plus un lapin dans la région. Vivement qu'il fasse la chasse aux cons, qu'on retourne cueillir des champignons.
Georges, ça vous... C'est drôle, je dis des fois, il réinvente sans cesse Saint-Germain-des-Prés.
Je pensais exactement la même chose. Je me revois, oui, dans des endroits où il y avait des inconnus qui faisaient des choses géniales. Je me disais pourquoi ils sont inconnus et ils ne le restaient pas longtemps.
Enfin, oui, ça donnait les frères Jacques.
Il y avait les enfants terribles. Mm-hmm. Je pensais aux enfants terribles parce que c'était des amis, donc ce n'est pas pour comparer. Mais parce
les
que
trois ménestrels, qui faisaient des choses formidables aussi, d'un humour incroyable.
Et puis même des gens tout seuls, comme Daniel Laloux, je ne sais pas si vous avez connu Daniel Laloux, qui chantait une chanson qui disait « Je suis le fils du général de Gaulle » et qui délirait complètement parce qu'il était très grand, il avait un grand nez. Et puis, moi, Coluche qui sortait de la cuisine où il faisait, qui était dans le sous-sol où il faisait la vaisselle, il montait, prenait la guitare et il jouait des chansons de Bruant à sa manière. Il était, pour moi, beaucoup plus drôle qu'il l'a été par la suite parce que c'était inattendu.
C'était très spontané. Oui. C'est le début du feu d'artifice, comme voilà. Ça.
Et donc, tous ces souvenirs me sont remontés comme ça en surface en écoutant. Et croyez-moi, c'est un grand plaisir.
Ouais, c'est formidable.
Est-ce que vous êtes misandre?
On est quoi ?
Les féministes passent leur temps à traiter les hommes de misogynes. Ah. Est-ce que c'est une chanson misandre ?
Pas du tout. C'est des chasseurs. C'est pas des et hommes, alors,
Et alors, vous préférez les bouchers qui à l'abattoir?
Non, en fait, cette chanson, ça vient de... C'est de toute façon, tout ce qu'on chante, c'est du vécu. On était en création à la campagne, chez notre metteur en scène, Didier Grebeau, en Bourgogne. Et tous les jours, on entendait des histoires comme ça de chasseurs qui passaient au bout des jardins. Et les jardins... On les voyait, c'est là où on était, c'est là où on vivait, et ça nous a un petit peu agacés au bout d'un moment.
Enfin, je ne sais pas, si vous aviez sympathisé, vous auriez offert des lapins. C'est mieux de se faire offrir un lapin que poser un lapin.
le choix est terrible.
Moi, j'ai une question. Vous êtes né à Paris ou vous êtes né de Paris comme moi?
C'est-à-dire d'où on vient, c'est ça?
Oui. C'était compliqué ma phrase, vous avez raison.
On n'est pas très bonne en grammaire. Mais est-ce qu'il y en a une qui est une vraie française parmi nous? C'est Véro, mais sinon toutes les autres. Il y a Marisa dont le père est malien. Moi je suis d'origine italienne. Et Coco d'Espagne, Espagne et France.
Mm-hmm. Et ouais, beau non, prince. Mais vous êtes né dans l'Hexagone.
Et sinon, pardon?
Vous êtes né dans l'Hexagone.
Oui, et on est né dans l'Hexagone. Oui. Ouais. On est de banlieue en fait parisienne de l'Essonne.
Non, je voulais rappeler cette fois, je ne sais pas qui l'a dit, qu'on ne naît pas à Paris, on renaît à Paris, ce qui était mon cas. Moi, mon premier livre où je racontais ma vie, je disais, je suis né en 1951 à Paris, j'ai 17 ans. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que c'est une nouvelle vie qui commençait pour moi.
Alors, je vous propose un petit voyage dans les archives. Donc là, vous aviez 12 ans, puisque c'est une émission... Alors, c'est Performance, qui était une émission... J'adore écouter les archives de cette émission, puisqu'on demandait aux artistes de jouer autre chose que ce qu'ils faisaient d'habitude. Elle est du 20 octobre 1962, et je vous propose d'écouter le générique, parce qu'il y a quand même du sacré beau linge.
Performance. Une émission de Pierre Crénès, Marcel Dinine, Francis Gastambide. Réalisé par Michel Duplessis. Avec la collaboration de Jeanne Bertrand et René Houdou. Assistant de production, Paul Bram. Chef opérateur du son, Francis Granal. Avec le concours de Paola, Arthur Petronio, Germaine Montero, Édouard Duleux, Marcel Amont, Moustaki, Mouloudji, Michel Arnaud, Berthe Bovy, et Edith Piaf. Présentation de Hervé Bazin de l'Académie Goncourt.
Celui-ci qui nous est venu d'Elade est le parolier d'une chanson célèbre, très célèbre même. Il est le compositeur de nombreuses autres, parmi lesquelles la seule chanson que j'ai jamais écrite comme chanson. Les derniers sont les premiers. Il va vous jouer une bourrée de Bach. Thank you. Vous avez entendu? Eh bien, il faut vous rappeler que Georges Moustaki, parolier de Milord, compositeur, est un guitariste de variété et de jazz, et que pour jouer ce morceau, il a dû tout exprès se replonger dans l'étude de la guitare classique.
5 heures de travail par jour pendant une semaine, mais là je vous emmène dans un univers qui m'est plus familier, celui des musiciens.
Alors votre réputation de paresseux, c'est n'importe quoi.
Non, mais c'est une réputation que je cultive d'abord par déférence pour la paresse, qui est une,
mm-hmm. qui est une chose grande louable, maîtresse, oui.
Et ensuite, pour essayer d'en faire moins, mais je n'y arrive pas, parce que je suis d'un côté paresseux comme tout le monde, ni plus ni moins, mais peut-être un peu plus gourmand et curieux que beaucoup de monde.
Une certaine connaissance des musiques classiques, ce n'est pas gênant pour un compositeur de mélodies?
C'est très stimulant. Quand je suis à court d'inspiration...
Parce qu'on a parlé du français, de votre amour de la langue française, mais je pense que l'amour de la musique, il a dû naître avant même que vous commenciez à articuler des mots en grec, en italien, en arabe, je ne sais pas en quoi.
Non, c'est venu bien après. Je crois qu'il a fallu que mes deux sœurs renoncent à devenir pianistes pour qu'on mette le piano dans ma chambre de...
Oui, mais vous écoutiez vos sœurs, vous les écoutiez ou vous les subissiez?
Je les subissais, non.
Le gai laboureur et tout ça.
Voilà, la méthode Zurflu. Et quand le piano était dans ma chambre, parce que personne n'en voulait, j'ai commencé à essayer de l'apprivoiser. Puis j'avais un ami qui était pianiste de bar. Et qui, je crois que la musique m'a vraiment impressionné quand je l'ai vu faire sous mes yeux. Les disques, ou bien aller dans une salle de spectacle, ça avait moins de... Ça me frappait moins.
Vous voulez parler des répétitions, des séances d'enregistrement?
Non. Un pianiste qui venait, cet ami de piano bar, venait chez moi et puis jouait pour moi. Il me montrait comment placer les mains, les doigts, etc., le corps. Et tout ça sortait une musique bien présente, bien proche. Et là, j'ai dit, je voudrais faire ça dans ma vie. Peut-être pas tout le temps, mais je ne pensais pas que j'allais rentrer dans le monde de la musique, mais ça m'a donné envie de faire un long parcours avec la musique.
Mais en même temps, très vite, vous vous êtes frotté à des tas de musiques assez différentes, donc au jazz, aux variétés anglo-saxonnes, aux variétés françaises, italiennes, grecques, je ne sais pas, à la musique arabe, parce qu'à Alexandrie, on devait l'entendre, ça devait sortir de...
Ça hurlait dans la rue par les radios, oui.
Habibi, de partout.
Elle.
C'est vos racines, quoi. C'est une de vos forces d'être comme ça, un grand arbre, et avec des racines qui puisent dans des endroits très, très différents.
Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le goût de la musique que j'ai eu et puis
très éclectique.
Mais je vivais dans un
pays.
Mais
vous-même, vous écoutez des musiques du monde entier tout le temps.
Et je voyage dans le monde entier, ce qui fait que ça me prédispose. La musique n'est pas un langage tellement universel qu'on le dit. Par exemple, quand j'étais en Corée, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qu'ils voulaient dire en jouant, de comprendre leur instrument,
Ils ont de grands instrumentistes en jazz, ils sont en saxophone, c'est les rois du saxophone, les Coréens.
Non, je parle de la musique...
traditionnelle.
Leur musique.
Le panchori.
Vous avez le temps de faire plus que moi. Mais que la première fois que j'ai entendu une jeune femme sur une sorte de koto, mais ça ne s'appelle pas koto en Corée, c'était impressionnant, mais... fascinant, mais je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Et au deuxième, troisième voyage, j'étais familiarisé. Non, ça c'est pour contredire l'image d'une musique, langage universel. C'est un langage avec ses codes.
Il y a une histoire dans l'autre sens. C'est quand les percussions de Strasbourg, dans les années 60, sont allées donner un concert à Hong Kong. Les journaux chinois ont écrit « Enfin de la musique occidentale que nous comprenons
». Oui, non, mais elle a quelque chose d'universel, mais pas systématiquement universel. Ce qui est universel dans la musique, c'est qu'elle produit des émotions. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les gens comprennent. Quand un chanteur francophone dit « Je ne veux pas aller chanter parce qu'on ne comprendra pas mes paroles », il oublie d'ajouter « On ne comprendra peut-être pas ma musique aussi ». Et ce que vous dites illustre bien le fossé qui sépare les cultures, même à propos de la musique. Et il faut des gens comme les percussions de Strasbourg pour faire le pont.
Ou alors être né dans une ville cosmopolite.
Ça aide.
Ça aide un petit peu.
Oui, ça m'a aidé parce que la radio, bon, comme toutes les villes cosmopolites, et on diffusait des chansons françaises. Je connaissais Trainé, Piaf, Georges Hulmer, Pierre Dudan, Montand, Salvador, c'était mon idole. Quand j'ai écrit une chanson avec Salvador, j'avais 20 ans, ça faisait 4 ans que j'étais à Paris. C'était pour moi une rencontre miraculeuse parce que tous ces gens étaient bien présents dans mon enfance. Puis il y avait la musique, comme on a dit, qui montait de la rue à partir des radios tonitruantes. Il y avait les musains, il y avait
les troupes anglaises qui devaient passer leur...
Les opérettes italiennes, les troupes anglaises, il y avait les tavernes grecques. Et tout ça était normal, c'était pas de l'exotisme, tout ça était dans notre vie de tous les jours. Et dans une famille qui était portée à s'intéresser à tout ce qui était en dehors de notre culture, le pas était vite franchi pour apprendre. Moi, je jouais des tangos grecs, je ne savais même pas ce que je racontais. Je suis capable, quand j'étais en Grèce, parce que je suis un grec de l'étranger, donc j'ai connu la Grèce très tard. Et alors on me dit, vous connaissez le grec, il me restait des bribes, mais je me souvenais surtout des tangos et je les restituais comme ça, sans savoir ce que ça voulait dire. Mais la prononciation et les paroles étaient impeccablement reproduites.
Vous avez fait quelques adaptations de chansons étrangères.
Oui, c'était toujours... C'est l'affection. J'ai traduit Adidakis par affection énorme et admiration.
C'est le facteur, c'est splendide, oui.
J'ai traduit Théodorakis parce qu'on était liés par notre combat contre la dictature. Donc c'était une affection militante, mais c'était pas du show business, quoi. C'était pas pour... Et puis une rencontre importante avec Antonio Carlo Jobim. Et qui m'avait demandé de traduire une chanson. Et pour ce faire, j'ai appris le portugais en 3 semaines, comme la bourrée de Bach intensive.
Vous pouvez nous la chanter, peut-être, cette chanson?
Oui.
Donc, Georges Moustakis s'accompagne à la guitare.
Si elle ne s'est pas trop désaccordée entre-temps, dans la chaleur du studio.
Les eaux de Mars.
Pas trop. Chemin qui chemine, reste de racine, c'est un peu solitaire. Un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert. Un arbre millénaire règne dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. Un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, un mystère profond. On reste de vie, c'est le souffle du vent, au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pique qui jacasse, c'est la verse qui berce, un torrent d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, un pas sûr à pas lent. La main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. Un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, un jardin qu'on arrose, une source d'eau claire. C'est un trou dans la terre, chemin qui chemine, un chagrin qui chagrine. C'est un peu solitaire, une écharde, d'un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, comme du vif argent, tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, le cri d'un hibou, le corps ensommeillé, voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un corbeau qui croise, c'est un chaland qui passe, un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Une pierre, un bâton, c'est Joseph et c'est Jacques. Un serpent qui attaque, une entaille au talon. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Chagrin qui chagrine, c'est un peu solitaire. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. La neige qui fond, ce sont les eaux de Mars. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond. Et pas, et pédre, et on file au camis. On reste dit-on, un peu que sosie. Et un cas que tu vis, et un pays des oussons. Et un mot, tu as mot, tu aimes la solution. C'est une chanson d'Antonio Carlo Jobim, un compositeur qui vivait au Brésil, m'avait demandé de la traduire en français, puis de vous la chanter. Et c'est ce qu'on a fait. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine.
toutes leurs racines. C'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars, la chanson est finie et on est au mois de mars.
Je vous remercie. Il n'y a pas eu de répétition, je dois dire. Je suis totalement bluffé. J'ai l'impression qu'ils se sont parlé derrière mon dos pour m'animer.
J'avais prévu qu'elles me donnent de l'eau et elles n'ont pas fait.
les vilaines. Alors, Mars, c'est le dieu de la guerre. Je vous propose une petite chanson québécoise d'un groupe qui s'appelle La Bottine Souriante. Alors, c'est le meilleur groupe de musique traditionnelle du Québec. Ils font un mélange de musique traditionnelle québécoise et de jazz. Ils sont 24, ils sont énormément sur scène, mais là c'est juste un chanteur et ses pieds, ils appellent ça les tapeux de pieds, pour faire la podorythmie, pour faire le rythme. C'est une chanson qui date de 1991, on se rappelle qu'il se passait certaines choses à l'époque du côté de la géostrato politique. Des raps de guerre, une chanson d'Yves Lambert.
Écoutez, je vais vous chanter un drame qui est arrivé. Ça s'est passé en janvier, presque au début de l'année. Je me suis senti soudain, d'un angoisse, c'est certain. La guerre qui est arrivée dans toute son atrocité. La guerre qui est arrivée dans toute son atrocité. Pour gaver l'Occident, il faut montrer des dents. J'appelle plus ça des dents, baptême, ça n'a pas de bon sens. Un mois et demi d'enfer, un autre peuple dans grosse misère. Vous dites que ça jouait des bras, tasse-toi, ôte-toi d'être là. Vous dites que ça jouait des bras, tasse-toi, ôte-toi d'être là. Tirli tam, tarla, tintori, tintil, 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 tintori, tintil, lam, tintilidou. Sur fond de religion, ça donne des bonnes raisons. Ils ont beau nous dire que c'est bon, moi j'aime mieux l'accordéon. Les penchants missionnaires de nos chirurgiens de guerre. Moi je trouve ça déprimant de la part de nos gouvernements. Moi je trouve ça déprimant de la part de nos gouvernements. Tirli dam, achoum, tirli tintori, lam, tirli tintori, libadam, tintilidou. Sans oublier de parler du prix que ça l'a coûté, des millions dépensés au nom de l'humanité. Quand je regarde mon voisin qui est en train de crever de faim, c'est cher comme conséquence ce beau triomphe de la science. C'est cher comme conséquence ce beau triomphe de la science. Et les victoire bien réussie, que tout le monde applaudit, bien effoiré, bien assis dans son confort à crédit. Comme c'est la tradition, excusez ma chanson, c'était mon opinion sur un petit rigodon. C'était mon opinion sur un petit rigodon.
Bravo l'artiste.
C'est l'actualité, hein.
Eh oui, bah, hélas, je crois que les chansons sur la guerre seront toujours d'actualité avant, je ne sais pas, qu'on arrive aux fameux États-Unis du monde dont on rêvait. On est bien arrivé aux États-Unis d'Europe. Peut-être un jour les États-Unis du monde, mais bon, on espère que la monnaie, ça sera le mondiaux, mais pas le dollar.
On ne sait plus quoi dire.
Jacques Prévert disait, les véritables chansons contre la guerre, c'est les chansons d'amour.
Moi, je pensais ça parce que bon, j'ai écrit des chansons dites engagées, parce que j'ai eu des émotions,
des
révoltes, des coups de sang, oui. Mais pour moi, la chanteuse la plus engagée, c'était Edith Piaf. Parce que sa manière de chanter l'amour était une manière de contredire toutes les bassesses de l'existence et du monde.
Tout la haine. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Voilà. Donc,
Et comme vous citiez Prévert, je pensais à Piaf. Parce que Piaf passait pour quelqu'un sans aucune, entre guillemets, conscience politique, puisqu'elle n'a adhéré à aucun parti, elle n'a pas chanté des choses qui subversives, mais elle était la subversion. Parce qu'elle chantait l'amour.
C'est magnifique. C'est soufi un peu.
Mais c'était une personne magnifique et une personne d'exception. Et vraiment, chaque fois que je pense à ce que j'ai vu, j'ai vécu un an avec elle, un an de travail, mais d'amour, un an de voyage, un an de dispute, un an de fou rire. Et c'est, j'ai l'impression que ça continue à faire des vagues. Il y a deux personnes, je m'amuse à dire que Piaf était ma maîtresse et Georges Brassens était mon maître. Et ces deux personnes qui ont laissé
une empreinte
vivante, c'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas. Quand j'écris une chanson, je lui dis comment elle aurait été jugée. Enfin, ce n'étaient pas des gens qui me jugeaient, mais des gens qui me nourrissaient. Mais quel aurait été leur regard sur une chanson, c'est toujours présent. c'est pas une censure, c'est pas une recherche d'une autorité, mais ça renforce l'exigence qu'on devrait toujours avoir.
Moi, je suis effaré par la qualité de son écriture. J'ai eu quelques-unes de ses lettres. Bon, ils ont publié les lettres à Cerdan. Je trouve que c'est un peu sensationnel. C'est pas ça qui m'intéresse le plus, mais c'est une vraie épistolière. Elle a un style d'écriture dans sa correspondance qui est quelque chose d'intéressant. Je suis tombé sur une lettre à Jacques Pils à une époque où il est en train de monter un spectacle. Et en 4 pages, elle lui démonte entièrement le spectacle. Mais c'est du Clausewitz à l'usage du music-hall, quoi. C'est extraordinaire.
Mais il y avait récemment une émission à laquelle j'ai participé où j'ai eu peut-être l'indiscrétion de lire 2 lettres qu'elle m'avait écrites. Mais elles étaient lisibles, je veux dire, c'était pas... Oui. Elles étaient lisibles.
Il y a une véritable qualité d'écriture.
Mais ses chansons le montrent aussi.
Elle en a écrit 2 ou 3.
L'hymne à l'amour sont des grandes chansons qui dans une écriture très simple et très, encore un mot idiot, mais enfin, qui s'impose, très populaire, universelle, puisqu'on voit la carrière de ces chansons, réussi à être bouleversante, mais avec des mots d'une simplicité remarquable. C'est une grande école, moi je le dis, avec un maître et une maîtresse pareil.
Vous l'avez présenté, Georges Brassens?
Je l'ai présenté, oui.
C'est quand même pas mal de présenter Piaf à Brassens.
Mais Piaf, pour Piaf, un artiste comme Brassens qui ne bougeait pas, qui transpirait...
Qui n'était pas mime, parce qu'elle était aussi mime en même temps, quelque chanteuse.
Elle ne faisait pas de comédie sur scène, elle méprisait un peu ça. Je lui ai dit, tu devrais aller l'écouter, parce que rien que sa présence et la richesse de son œuvre remplace tous les décors et tous les gestes, toute la dramaturgie. De temps en temps, elle m'écoutait, alors on est allé ensemble voir l'Olympia, et j'ai présenté l'artiste à Piaf, mais c'est Cocatrice qui a présenté l'homme à Piaf. Et alors, ma récompense, c'est que quand Brassens a vu Piaf, il a dit « Ewe Moustaki ». Il m'avait associé à elle et j'étais très touché.
J'imagine. Puisque les plus belles chansons sont des chansons d'amour, vous en avez une qui est un petit peu... Oh, qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est une chanson d'amour, tout simplement. Oui, d'amour,
voilà.
Tout simplement.
Il y avait une poétesse grecque dans l'Antiquité qui s'appelait Sappho.
Ouais.
Et votre chanson s'appelle Babette.
Ouais.
Et on vous écoute. De se mettre derrière les 4 micros pour le quartet buccal.
Chaque fois que je te vois, ma bête, il y a un volcan au creux de moi. Qui fait ding ding dong et qui pète. T'es la seule fille qui me fait ça. Comment dire sans te voir inquiète. Tu me plais tout le tralala. Vu que t'as une fille et que j'ai des couettes, tout ça me met dans l'embarras. Pourquoi moi je me mets dans ce drôle d'état pour toi? Pourquoi toi? J'ai jamais eu cette pulsion-là. Les nanas, c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi? Tu me troubles à ce point-là, j'y crois pas. Pourquoi toi? Je vais quand même pas te faire du plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. Pourtant, avant de te connaître, je ne flashais que pour de beaux gars. Pas les plus machos peut-être, mais enfin ils en avaient là. Voilà soudain que je m'empête, tourneboulée dans de beaux draps. Oui, toi ma belle, tu as fait naître de drôles d'envie qui ne s'avouent pas. Pourquoi moi je me mets dans ce drôle d'état pour toi? Pourquoi toi? J'ai jamais eu ces pulsions-là. Les nanas, c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi? Tu me troubles à ce point-là, j'y crois pas. Pourquoi toi? Je vais quand même pas te faire du plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. J'aimerais me dévoiler, Babette, mais tu m'ignores et me chagrines. Car pas une pensée malhonnête derrière ta tête ne trottine. Je pâlis, tremble et deviens bête. Je bafouille et me ratatine quand tu me confies tes conquêtes.
exclusivement masculine. Tong tiki tong tiki tong encan, tiki 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 tong. Dire qu'il me manque de tout bijou pour te voir fondre entre mes doigts. Je vais pas tenter le tout pour le tout, vu que j'aime assez mon petit chat. Mais si tu tombais à genoux devant un type de l'épée, je serais tout prêt au cas où tu voudrais pleurer dans les bras. Pourquoi moi, je me mets dans ce drôle d'état pour toi? Pourquoi toi? J'ai jamais eu ces pulsions-là. Les nanas, c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi? Tu me troubles à ce point-là, j'y crois pas. Pourquoi toi? Je vais quand même pas te faire du plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. Chaque fois que je te vois, Babette, y a un volcan au creux de moi qui fait ding-dang, dong et qui pète. T'es la seule fille qui me fait ça. Comment dire sans te voir inquiète? Tu me plais tout le tralala. Vu que t'es une fille et que j'ai des couettes, tout ça me met dans l'embarras. Pourquoi moi, je me mets dans ce drôle d'état pour toi? Pourquoi toi? J'ai jamais eu ces pulsions-là. Les nanas, c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi? Tu me troubles à ce point-là, j'y crois pas. Pourquoi toi? Je vais quand même pas te faire du plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit.
Merci le quartet buccal. Je voudrais pas être indiscrète, mais laquelle des quatre a écrit la chanson?
C'est Marisa.
Et laquelle est Marisa?
Marisa, c'est la belle.
Avec les beaux yeux.
Je voulais juste te dire en fait que...
Mais soit qui mal y pense.
Voilà.
Mais non.
Non, c'est une jolie chanson d'amour, ouais. Et elle est très tendre.
Mais c'est pour dire qu'elle était du Mali.
Et ingénieuse.
C'est ça.
Avec ses yeux malicieux.
Mais ce que je voulais juste te dire, c'est que donc, nous, ça fait 9 ans qu'on chante a cappella nos chansons qu'on met en scène. Et donc là, on vient juste de sortir un disque. Et pour la première fois, ça a été mis en musique, comme on en parlait tout à l'heure.
Et j'étais méchante, je vous ai dit non, on ne passe pas le disque. Ils n'ont qu'à acheter le disque.
Ça sera la surprise.
S'ils veulent. Voilà.
Donc il y a 4 arrangeurs différents qu'on travaillait dessus et qui nous ont fait des trucs super avec nos chansons.
Ouais.
Est-ce que l'amour qui n'est pas payé de retour est plus joli en chanson que... évidemment, si la fille, enfin si les deux correspondent, il n'y a plus rien à dire.
On ne sait pas comment termine en même temps.
Juste La vie en rose, par exemple, ça se passe plutôt bien.
Ah oui, une chanson peut finir bien. Non, je cherchais des exemples, là, un moment très brillant, mais je suis encore sous le... C'est l'émotion de la chanson. Quand on aime les femmes, on aime bien que les femmes aiment les femmes.
Oui, bah oui, c'est une vieille... Oui, mais en général, ceux qui disent ça, quand les dames leur disent la même chose, là, ils protestent, ils ne sont pas d'accord.
Bon.
Alors, on va passer... vous avez été assez gentil, il y a une chanson de vous que j'aime beaucoup.
Voilà.
Qui s'appelle La boucle d'oreille. Alors, on va rêver
Je vais essayer de ne pas la trahir.
De ne pas la trahir. Et puis, on va rêver que peut-être demain matin, sur votre oreiller, c'est 4 paires de boucles d'oreilles.
Mon Dieu.
Mais dis donc. On n'est pas couché.
D'oreilles sur un oreiller, quelle est la belle qu'il a oubliée? Une créature de rêve disparue avant qu'il s'achève, une visiteuse d'un soir évanouie dans le brouillard. Boucle d'oreilles sur un oreiller, quelle est la belle qu'il a oubliée? Une aventure ou une amante ou simplement une passante venue le temps d'un grand amour et repartie au petit jour. Quelle est la belle qu'il a oublié? Une adorable maladroite qui qui peut-être perd trop de hâte en voulant retirer sa robe, a pu l'arracher de son lobe. Boucle d'oreille sur un oreiller, quelle est la belle qu'il a oubliée? Ce n'est que la trace indiscrète d'une amoureuse très distraite, un tendre message chiffré. Ne m'oublie pas, je reviendrai.
Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
We agreed to end this love affair, to erase every word that you said, that set me free. We agreed to part in harmony, but I think I may live to regret being cooperative. Though I can see darkness at noon, I gave you my loving, and I rose like the rising sun, and now I feel nothing, for without you there is no love. Oh, my heart shines bright for you. Agree to never meet again. We agreed a life of misery. Thank you.